Histoire des religions à travers les livres. Anne Bernet.
Chers auditeurs, je rappelle que nous sommes avec Thierry Nélias qui parle de son remarquable ouvrage paru aux éditions Viber, Algérie et la conquête, 1830-1870. Je trouve d'autant plus étonnant ce que vous dites, Thierry Nélias, à propos des incertitudes de Louis-Philippe. Quand on pense à la suite des événements, à la manière dont les princes d'Orléans vont s'investir dans la conquête de l'Algérie, la fondation de Philippeville, je sais que vous avez des attaches familiales, et puis le rôle d'abord du duc d'Orléans, puis de ses frères, et d'abord du duc d'Aumale. Alors nous n'en sommes pas encore là, mais cette conquête, puisque finalement nous allons décider de rester pour diverses raisons, elle ne va pas se heurter d'emblée à un mauvais vouloir général, mais un homme va finir par se lever. Et en vous disant, après tout, on se dit que si l'on se situe du parti adverse, Abdelkader est quand même un personnage assez remarquable.
Oui, oui, parce que bon, c'est un noble de la région de Mascara. Il descend directement du petit-fils de Mahomet, donc il a aussi une charge religieuse. C'est un homme qui, à l'origine, se portait plus à devenir marabout, donc avoir une vie spirituelle. Mais il a également une formation militaire, hein, comme tout noble de l'époque. Et il va peu à peu rentrer dans la résistance en assistant au conseil de guerre de son père. Hein. À partir de 32, donc novembre 32 exactement, il est élu sultan et calife de la région de Mascara. Et c'est à partir de là qu'il va vraiment prendre conscience de sa charge et du rôle qu'il peut jouer au nom de l'islam. Là, il décide donc de commencer à rallier les tribus derrière, sous sa bannière, pour chasser les Français et les rejeter à la mer. Et donc il va avoir de premiers engagements avec notamment le général commandant de la ville d'Oran, qui se trouve un petit peu coincé dans sa ville, parce qu'au départ, ce général comptait beaucoup sur ses alliances avec la tribu des Douairs et des Smélas. Sauf que Abdelkader va retourner les Douairs et les Smélas et les rallier à sa bannière. Et là, le général qui va prendre la suite, le général Demichel, va être obligé d'établir un traité avec Abdelkader. Donc c'est déjà une première victoire d'Abdelkader. Donc c'est quelqu'un qui est un fin tacticien, qui est un véritable asset également, donc il impressionne toujours les gens qui se présentent à lui.
C'est plus un chef de djihad qu'un homme qui se bat pour la liberté de sa patrie. Ce qui l'intéresse, c'est d'empêcher les Roumis de mettre les pieds sur un sol appartenant au Dar el-Islam.
C'est ça, oui. Oui, là, on est vraiment dans le cas de figure du djihad, comme vous dites. Oui. Donc, il rallie peu à peu les tribus derrière sa bannière. Mais il le fait si par la force si besoin. C'est ça qui est assez étonnant en fait, parce que bon, la division étant ce qu'elle est entre les tribus en Algérie, il faut parfois recourir à la force, y compris en opérant des razzias. Donc c'est quelqu'un de pragmatique, hein, qui utilise la violence si vraiment il en a besoin. Il va obtenir donc une première victoire retentissante, la victoire dans les marais de la Macta, où il défait le général Trezel, et 800 Français sont mis hors de combat, dont beaucoup vont être égorgés d'ailleurs par les troupes de...
Il y a des aspects inexpiables dans cette guerre, et des deux côtés d'ailleurs.
Des deux côtés, oui, oui, bien sûr, puisque bon, c'est un peu plus tard auront lieu des fameuses enfumades, hein, mais là j'anticipe aussi, de la part des Français, en fait, dans les montagnes du Dara, hein, c'est le petit Kabylie. Mais oui, c'est une guerre, c'est pas une guerre à l'européenne, en fait, c'est ouais, une guerre avec des règles nouvelles, auxquels vont s'adapter les Français d'ailleurs, notamment je pense surtout aux radias, la technique des radias qui va être utilisée aussi par les Français, notamment avec certains chefs comme l'officier Youssouf.
Vous pourriez peut-être justement nous rappeler qui est Youssouf, qui était légendaire, oui. Et là encore c'est quelqu'un qu'on a totalement oublié.
Je crois qu'il finira colonel en fait, colonel Youssouf. Youssouf en fait est né, c'est un homme qui est né sur l'île d'Elbe, hein, qui s'appelle Veltrami de mémoire, et qui aurait vu d'ailleurs de son exil sur l'île d'Elbe, et qui, autour de 1815 exactement, part faire des études à Livourne et est radié par justement des barbaresques à ce moment-là, comme beaucoup. Hein. Les barbaresques le ramènent à Tunis, et à Tunis, en fait, il va être remarqué et va rentrer au service du Bey de Tunis. Il va obtenir donc une formation militaire et une formation spirituelle aussi, hein, liée à l'islam.
Il est converti à l'islam de force, oui.
Il est converti à l'islam de force. Et puis, dans les années 29, à peu près, il tombe amoureux de la fille du Bey. Et cette idylle, vu d'un très très mauvais œil par des opposants. Et il apprend qu'un attentat contre sa vie est en préparation et par peur, donc il décide de partir avec un bateau français dont il connaissait en fait le capitaine. Et il part en direction de l'Algérie et il arrive dans la baie de Sidi Ferruc au moment où les Français ont débarqué. Il arrive en tenue orientale, aussi avec son cheval et puis son turban. Donc il impressionne en fait les premières personnes qui le voient. Et il va rentrer donc au service de Français en tant que traducteur. Peu à peu donc il va prendre la responsabilité des zouaves en fait de la première unité de zouaves. Et c'est un homme qui ensuite va utiliser des... Il a énormément de contacts, en fait, de par sa connaissance de l'arabe, de par sa connaissance du monde arabe également. Donc, il va utiliser énormément d'informateurs. Il sera toujours très, très bien informé des situations lors des différents combats. Il va aussi faire de la désinformation, utiliser des techniques de connaissance du terrain. Il va aussi utiliser des techniques de radia à l'oriental. Et pourtant, il travaille pour l'armée française. C'est un personnage assez énigmatique, assez paradoxal, si on peut dire.
Mais ce sera tout le génie de l'armée française en Algérie et dans d'autres régions d'Orient, avec la fondation plus tard des bureaux arabes, d'utiliser justement les informateurs sur le terrain pour pouvoir maintenir la présence française dans des régions qui ne lui sont pas fatalement favorables.
C'est la grande souplesse de l'armée française qui va se développer peu à peu sur le terrain, et notamment par le général Bugeaud qui va intervenir à partir de 36, hein, 36 justement pour contrer Abdelkader après la défaite de la Macta. Bugeaud va être vraiment l'archétype de l'officier français qui sait utiliser le terrain et s'adapter aux techniques de son adversaire.
Revenons-en à Abdelkader. Nous l'avons laissé au moment où on lui a cédé finalement une sorte d'émirat à l'intérieur du territoire algérien, pendant que la présence française se concentrait sur la côte méditerranéenne. Mais c'est une situation qui est intenable pour les deux parties. Et Abdelkader lui-même, qui pratique la taqiyya, n'a pas l'intention de laisser très longtemps les infidèles sur le sol algérien. Donc il va y avoir en 1839 l'incident des portes de fer, qui va servir de prétexte à un nouveau djihad. Et nous allons assister alors là, véritablement à l'épisode... Trois ans plus tard, en 1842, l'épisode légendaire de la prise de la Smala d'Abdelkader. Mais en vous lisant, on se rend compte que, malgré ce que dit la propagande française, cela n'a pas mis un terme à la guerre d'Abdelkader.
Ça n'a pas mis un terme parce que, bon, effectivement, c'est le duc d'Aumale en fait, qui dirige les opérations militaires à ce moment-là. Et quand Youssouf est puis accompagné du futur général Fleury, dont je parle beaucoup, qui est un des témoins de mon livre, découvre par hasard, grâce à des informateurs, que derrière une colline au sud de Taguin, hein, qui est au début du Sahara, hein, c'est vraiment on attaque vraiment le désert, découvre de l'autre côté de la colline le campement après lequel il courait depuis plusieurs semaines. Alors déjà, ils hésitent parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'hommes, il y a au moins 5-6 000 tentes, c'est une ville ambulante hein, qu'ils découvrent. Et eux ne sont que quelques centaines à ce moment-là, 600 en gros. Ils hésitent et puis le duc d'Aumale décide quand même d'y aller. Quoi. Ils lancent l'opération, ils surprennent la Smala en fait, alors qu'elle ne s'attendait vraiment pas à tomber sur les Français à cette distance. Quand ils prennent la Smala, donc, ils pensent avoir gagné, sauf que ben, Abdelkader n'est pas dans son QG ambulant à ce moment-là. Il est plus à l'ouest, en fait, occupé à trop d'autres affaires. Ce qui fait que ça ne résout pas le problème, puisque Abdelkader va recréer une Smala en plus petit, donc il appelle une Daïra, et va se réfugier plus dans les terres de l'ouest de l'Algérie, et sous la pression française, passer derrière la frontière du Maroc. Et là, il va exciter donc les tribus qui sont frontalières au Maroc et les tribus frontalières côté algérien, et va relancer en fait une résistance qui va durer encore 2-3 ans. Il va même avoir quelques victoires, hein, puisqu'il va vaincre Sidi Ibrahim notamment. Et ça va provoquer d'ailleurs une bataille rendue célèbre, en fait, où le maréchal Bugeaud affronte les Marocains ici, puisque les Marocains finissent par prendre fait et cause pour Abdelkader. Et le général Bugeaud sera nommé duc d'Isli à l'issue de cette grande victoire qu'il obtient, parce qu'il obtient cette victoire à 1 contre 5 quasiment.
Alors Thierry Nélias, malgré tout, on s'avance vers une sorte de pacification fragile, parce qu'il y aura toujours des attaques sur des fermes isolées, des colons. Justement, ces colons, à partir 1848 en particulier, ils vont commencer à affluer. Et en vous lisant, on s'aperçoit que c'était absolument épouvantable. Rien n'était préparé, les conditions sanitaires étaient atroces. L'installation des Français en Algérie, c'est un calvaire.
Oui, c'est ça. Jusqu'à 48, il y a déjà eu des mouvements d'immigration. Alors, des Italiens, des Maltais, des Espagnols, qui sont quand même assez nombreux à ce moment-là. On commence à avoir aussi des Suisses, des Allemands, des Alsaciens. Mais ça reste quand même encore anecdotique, puisqu'en 1865, il n'y aura que 200 000 Européens pour 3 millions d'Autochtones. Donc ça reste encore, dans les années 40, très très peu de monde. Et disons que les premiers mouvements organisés, on va dire, voulus par l'État en grande pompe, commencent en 48 avec la Seconde République, oui. Sauf que la Seconde République n'a pas mis les moyens derrière ses ambitions. Elle a monté ça à la va-vite, surtout pour en fait se débarrasser de certains agitateurs dont elle craint les actions, surtout après juin 1848. Hein.
C'est un peu une déportation qui ne dit pas son nom.
Oui, c'est vrai. Bah, surtout les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est-à-dire des départs de barges depuis la Seine qui vont remonter le cours des canaux avec des gens qui sont passés sur des péniches tirées par des chevaux, donc allés, avec des baraquements qui sont construits, qui sont parfois pas tellement isolés. Donc, et quand ces colons arrivent là-bas, ils s'aperçoivent que finalement il y a eu des commencements de travaux, mais ils ont encore la moitié des travaux à terminer, quoi. Et les marais alentours ne sont pas assainis. Enfin bon, ils vont découvrir quand même. Et puis effectivement, les terres ne sont pas défrichées complètement, ou même pas du tout. Donc, comme vous dites, il faut être confronté à des conditions sanitaires terribles. Il va y avoir des maladies, la malaria, le typhus et autres. Et une bonne partie de ces colons qui, de la vague de 48, va soit mourir, soit retourner en France. Il en restera peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'un tiers ou 25% à peu près. Donc oui, les premiers temps de la colonisation sont difficiles. Il fallait vraiment avoir le cœur accroché, oui.
Thierry Nélias, cette émission touche à sa fin malheureusement. Je voudrais vous demander, pour conclure, qu'est-ce que dans ces 40 premières années de la présence française en Algérie, qu'est-ce que nous avons réussi, qu'est-ce que nous avons raté, qu'est-ce que nous aurions dû faire ?
L'empereur Napoléon III, quand il est arrivé au pouvoir à partir de 1852, alors au début était peu concerné par l'Algérie, hein, qu'il appelait un boulet attaché au pied de la France. Mais petit à petit, sous l'influence de Saint-Simoniens comme Thomas Urbain, et lui-même étant assez sensible à ses idées, va décider d'associer les populations arabes au développement de la colonie et va essayer de protéger le plus possible leur propriété et leur laisser une certaine autonomie et leur laisser en fait une partie des terres plus au sud pour l'élevage et l'agriculture, et spécialiser les terres plus au nord en fait pour les Européens, l'industrie, l'exploitation des forêts, les ports et le commerce avec le reste de l'Europe, et dans ce qu'il appelle en fait un royaume arabe. Il va promulguer plusieurs senatus consultes, dont un sur la propriété en 63, la propriété arabe, et un deuxième en fait sur l'accès à la citoyenneté française. Donc il y avait de bonnes idées à ce moment-là pour associer les populations, mais les populations musulmanes n'ont pas joué le jeu, puisqu'en fait ça supposait d'abandonner leur statut personnel qui était régi par le droit coranique. Donc finalement, il y a eu de bonnes idées, il y a eu beaucoup de revirements, mais à partir de 71, quand la Troisième République reprend les rênes, elle va opter pour une colonisation totale, ce qui fait que à partir de là, ben, on a déjà les germes en fait de ce qui va se passer au XXe siècle. C'est-à-dire que la colonie ne pourra pas survivre. Il y aura trop de tensions en fait entre les populations, et ce qui fait que ça ne sera pas viable. Mais l'idée de Napoléon III pouvait éventuellement résoudre certains problèmes. Oui. Et alors par contre, effectivement, oui, comme pour revenir sur ce que la France y a laissé, elle a laissé quand même énormément de chemin de fer à ce moment-là. Elle a installé le télégraphe, elle a
bâti des villes.
Donc des villes également, comme
Philippeville.
Comme Philippeville, Orléansville, Aumale, Nemours, ce sont des villes qui sont sorties ex nihilo, Boufaric aussi, qui était un tout petit marché, en fait, j'en parle d'ailleurs un moment, hein. Une ville qui n'était fréquentée que par les corbeaux, disaient les Arabes, avant l'arrivée des Français. Et on en fait une ville opulente, hein, sur la voie de chemin de fer Alger-Oran, avec des exploitations agricoles florissantes. Donc oui, dans ces 40 premières années, la France a laissé des bienfaits, si on peut dire. Hein. Mais bon, effectivement, par contre, a déstructuré complètement la propriété traditionnelle arabe.
Thierry Nélias, je rappelle que vous publiez aux éditions Vibert, la librairie Vibert, Algérie et la conquête 1830-1870, comment tout a commencé. Un ouvrage remarquable parce qu'entre autres, il rappelle des hauts faits, il ne faut pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom, et des personnages qui sont sortis de notre mémoire et qui méritent d'y revenir. Merci infiniment pour votre participation.
C'est moi qui vous remercie.